Donc, je vais passer à notre deuxième invitée, Vanessa Yumsi, que j'ai connue d'abord par ses livres, et puis on s'est rencontrés toutes les deux dans le comité du PEN international. Mais c'est donc ces livres qui m'ont marquée. Et puis après, j'ai appris, ben, je l'ai su dans les livres, mais après, surtout dans le dernier, j'ai vu que tu travaillais comme psychiatre, que tu étais chargée d'enseignement ici à l'Université de Montréal. Et je crois que les trois textes que j'ai lus de toi, les trois recueils de poésie que j'ai lus de toi, de poésie, on pourrait discuter aussi d'ailleurs, parce que Soigner aimé n'est peut-être pas un recueil de poésie, mais enfin, Emprunté aux oiseaux, Métissé, Soigner aimé, me semblaient tous les trois penser beaucoup la relation de soin à l'autre. Celui qui m'avait tout de suite bouleversée, c'était celui Emprunté aux oiseaux, où la narratrice raconte un peu, enfin la poète, enfin, l'instance narrative raconte son rapport à sa grand-mère qui est en train de mourir et qui l'accompagne. Et donc on avait vraiment, Benjamin et moi, envie de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a appelé ta conférence, du nom de ton livre, Soigner aimé. Et donc, on va commencer tout de suite. Je voulais t'entendre peut-être par que tu ouvres par un extrait d'un de tes livres juste qu'on entende ta voix de.
Oui, ben merci beaucoup de l'invitation. Je suis toujours très honorée de venir parler en littérature. Là, ça me touche vraiment beaucoup. Dans le fond, je vais lire un extrait de Soigner aimé, vu que c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Là, donc, il n'y eut pas d'illuminati durant mon bref séjour à Koudjouak. Andy ne perdit ni la foi, ni la folie, ni la vie. Le corps tient longtemps avec de l'eau. Je ne reverrai ni Andy ni Koudjouak, mais je connais la suite. Le psychiatre demandera une ordonnance de traitement à la cour et l'obtiendra dans l'urgence. Andy sera traité dans un centre hospitalier de la métropole. À quelques kilomètres d'Andy, je dégusterai des pâtes aux morilles, tandis qu'il recevra une injection contre son gré. Cela prendra plusieurs infirmiers et agents de sécurité pour la lui donner. Il se débattra, hurlera, on lancera un code blanc et je m'étoufferai avec mes linguinis, tandis qu'Andy ne sera plus qu'un cri défonçant les tympans de Montréal. 6 jours plus tard, Andy recommencera à manger tandis que je serai menstruée. Le sang coulera, de la lave entre mes cuisses. Des gnomes arracheront les parois de mon utérus, créeront un vitrail douloureux et amoureux, jetteront des cailloux, fruits rouges qui tacheront le coton de ma serviette. J'aurai mal, comme à chaque mois, les crampes, le ventre distendu par d'invisibles poulies qui agitent le corps des femmes. Je ne prendrai ni Advil, ni Tylenol, parce que je n'aime pas les pilules. Andy aussi n'aime pas les pilules, mais il aura sa deuxième injection, tandis que je sortirai avec des amis. Le cri d'Andy cassera toutes les vitres du restaurant où je fêterai. Les fenêtres exploseront de colère. Le cri s'écrasera dans la cacophonie du centre-ville parmi les klaxons des églises de l'autoroute Ville-Marie et les cloches des églises vides. Il n'y aura plus une fenêtre intacte sur l'île de Montréal. Les rues déborderont de tessons qui danseront sur le hurlement d'Andy, rappelant la migration des caribous de la rivière Georges. Qu'elle est sinueuse, la route qui mène à la santé, et qu'elles sont mensuelles, les injections. Andy ne criera plus, il mangera comme tout le monde et reprendra du poids. On le croira normal, même s'il a les cheveux sales. Les tatouages deviendront communs, mais Andy n'en voudra pas, car il aura peur des aiguilles. On tiendra un débat national sur le retour des Nordiques. La terre tournera comme il faut, et Andy ne parlera plus des Illuminati. Andy sera un cri coupé. J'entendrai longuement ce cri en moi. Est-ce mal, injecter Andy contre son gré, avec l'autorisation d'un juge? N'est-ce pas plus mal de le laisser périr pour un délire, alors qu'il peut vivre normalement grâce au traitement? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il faut traiter Andy, le sauver de la psychose et de la mort. Or, ce cri, est-ce celui d'Andy? Est-ce le mien? Pourquoi me pourchasse-t-il comme novembre?
Je vais bouleverser un peu l'ordre de mes questions. Je vais commencer par une des dernières que j'avais. C'est quand tout à l'heure, avant de te présenter, je n'ai pas dit à quel hôpital tu travaillais. Tu tenais à ce que je ne le dise pas. J'ai envie de dire comment. Quel est le lien? Qu'est-ce que c'est publier, Quentin? Je vais commencer comme ça, parce que là, tu viens de vendre. Alors, qu'est-ce que c'est parler de quelqu'un qui a sûrement été un cas mais on est dans un rapport à la fiction, hein, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est soigner quand on écrit, pourquoi écrire quand on soigne, et puis quel lien à la publication. C'est-à-dire parce que bon, moi, si je publie, tout le monde s'en fout. Je brise pas. Il y a quand même aussi un rapport au secret professionnel, et même si on n'est pas dans un rapport, même si on est dans un lien de fiction, et les littéraires le savent, mais est-ce que le corps médical le sait? Ouais. Voilà. Ouais. J'ai envie de commencer par une question un peu banale, mais j'ai envie de c'est ta place.
OK, ici. Ben c'est une question un peu plus facile. Donc, ben en fait, c'est sûr qu'il y a toujours un questionnement éthique. Moi, j'ai un rapport assez angoissé à la publication. Ce livre-là, en fait, j'ai failli appeler pour le faire annuler. Effectivement, ça reste pour moi de la littérature. Puis je scandalise souvent mes collègues quand je dis que c'est des patients de papier, parce qu'eux, ils étaient convaincus que c'était vraiment des cas réels. Mais quelque part, c'est réel et ce n'est pas, dans le sens qu'on est dans un espace transitionnel au sens de Winnicott où les choses sont réelles et ne le sont pas, dans le sens que c'est des patients que j'ai créés à travers mon expérience aussi. Donc, il n'y a aucun cas que quelqu'un pourrait vraiment identifier. Moi, je suis passionnée de poésie, j'écris de la poésie, puis j'ai toujours la prétention que ça ne vend pas beaucoup, donc ça fait que je peux rester quand même assez discrète dans tout ça. J'aime ce côté discret. Puis je fais très attention de ne pas mêler les conférences, là, mais dans ma pratique avec les patients, je ne parle jamais du fait que je suis poète. Beaucoup de mes patients me parlent, là, j'écris des poèmes, donc je pose plein de questions, je m'intéresse, je dis, ah ouais, vous écrivez de la poésie, tout ça, mais je ne vais jamais mentionner ma propre vie extra-psychiatrique. Donc, des fois, c'est plus les gens qui ont lu sur moi ou sur mes livres. Puis, ils m'en parlent, mais moi, je fais « Ah oui, ah oui, ah oui. » Je fais la psychiatre, quoi. C'est ça. Donc, j'arrive à gérer. Là. C'est ce que j'ai trouvé difficile, parenthèse, c'est les médias sociaux, mais je me suis comme sortie de tout ça. Et je suis plus heureuse depuis, en fait. Donc, c'est ça.
Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, justement, aussi, dans ton texte, tu dis que il s'agit toujours de toucher sans traverser. Tu parles beaucoup de survivre dans ce système-là. Et donc, oui, finalement, il faut garder une distance qui est saine. Tantôt, je parlais beaucoup de il fallait ouvrir les corps puis finalement créer le lien entre les deux. Mais dans la relation de soins où il peut y avoir des conséquences très graves si on ne respecte pas là, ces balises-là, bon, justement, c'est important de le faire. Mais j'aimerais ça, moi, j'aime beaucoup cette formule-là quand tu dis « il faut toucher sans traverser », puis après ça, tu écris « autrement, on reçoit l'injection pour de vrai. Je préfère que la raison passe tout droit, être miroir et écho, invitation ou reflet. » Donc, est-ce que ça, dans le fond, par rapport à ça, est-ce que tu t'écris aussi un peu à travers tes patients? On parle un peu du vrai du faux par rapport aux patients qui sont devant toi, mais comment tu vas chercher la part de toi-même dans la souffrance, finalement, des patients? Tu mentionnes beaucoup aussi, quand tu étais à Coup de joie, que tu voyais énormément de misère, puis que c'était une misère qui n'était pas la tienne parce que tu avais pu t'en sauver en ayant des A. Là, je me rappelle plus, tu disais, heureusement, j'ai pu me sauver en médecine et avoir des A, puis je me retrouve pas finalement dans une misère épouvantable. Mais est-ce que la part de toi dans les patients que tu vois, comment tu l'appréhendes?
C'est une question vaste. Là. Ouais. Je vois plusieurs angles de réponse. Peut-être que je commencerai. Dans le fond, souvent, les gens me demandent comment tu fais être psychiatre. Ça doit tellement être fou comme métier, épuisant. Moi, je ne serais jamais capable de faire ça. En un sens, c'est vrai, mais en un sens, c'est faux, dans la mesure où, à un moment donné, c'est plate ce que je veux dire, mais il faut que ça devienne un peu comme faire du pain. OK. Puis dans le fond, on n'a comme pas le choix, OK, parce qu'il faut effectivement qu'on survive à travers ça. Puis c'est toute la question de la juste distance pour pas tomber dans le patient non plus, mais pour pas que le patient tombe dans nous non plus. Le fait d'avoir cette distance mitoyenne, en fait, ça permet de jouer, puis ça permet de co-créer. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, la question des limites est extrêmement importante. Puis, je le dis souvent, c'est un peu mon dada, mais il n'y a pas de lien sans séparation. Hein? Donc, et pour moi, les mots ont aussi cette fonction, le langage, bon, en psychanalyse, aussi cette fonction de la limite aussi. C'est-à-dire qu'on est deux êtres distincts avec nos langages distincts. Donc, pour moi, l'écriture en tant que telle, c'est une façon de comme travailler mon propre espace, donc mes propres limites. Puis j'ai l'impression, en tout cas j'espère, que ça me permet ensuite d'être en lien avec le patient. Parce que si j'ai pas mon espace, je vais me perdre. T'sais, il faut pas que ça soit ma mère qui meure si c'est la mère du patient qui meurt, parce que sinon j'y arriverai pas. Non, puis je vais pas être une bonne soignante. Je vais pas l'aider. Je vais juste comme projeter mes propres enjeux. T'sais. Puis de la même façon, il y avait une question sur la question des bons sentiments. Puis ça me faisait un peu rigoler parce que c'est vrai que des fois, il y a des patients qui on peut sentir de la colère, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment le patient qui nous met en colère? Je veux dire, ça n'a comme pas trop à voir. T'sais. Souvent, après des années de psychanalyse, on se rend compte que ça n'a pas vraiment à voir avec le patient, puis ça a plus à voir avec notre histoire. Et pour moi, l'écriture, c'est une façon, à travers la poésie, de plonger dans mon histoire et de faire ressortir mes propres vulnérabilités. L'autre chose, au niveau de la psychiatrie, en fait, c'est que la psychiatrie, on n'a pas de... On n'a pas d'imagerie, on n'a pas de laboratoire. Donc, on est vraiment un peu au 19e siècle là, de la cardiologie puis de la dermatologie, en tout cas, de ces disciplines-là. Et donc, on n'a pas le choix d'écouter le patient. C'est pour ça que ça nous prend plus que 5 minutes, ce qui est une bonne chose. Hein? Mais la littérature nous rappelle ça, en fait, nous ramène un peu aux racines de la médecine. Hein? C'est-à-dire que la médecine, bon, classiquement, c'est aussi un art, c'est pas seulement une science. Donc, il y a tout l'aspect pratique, pas juste l'aspect technique. Et pour moi, la littérature me ramène à ça dans la mesure où ça me ramène au métier de langage. C'est-à-dire que la psychiatrie, c'est un métier de langage et la littérature également. Puis c'est aussi un métier, pour moi, les deux métiers sont des métiers d'écoute. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture particulièrement, c'est vraiment une écoute de soi, des nuits en nous, pour reprendre Nicole Brossard. Et dans le fond, la psychiatrie, c'est aussi un métier d'écoute. Mais il n'y a pas de lien à autrui s'il n'y a pas d'abord un lien à soi. Et pour moi, ça, c'est vraiment central. Là. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Oui, tout à fait. Merci.
Tout à l'heure, on a parlé de la médecine narrative et du rapport au narratif dans la médecine. Tu as choisi la poésie d'une certaine façon. Là, peut-être un peu moins dans le texte extrême, mais tu as choisi beaucoup la poésie. Tu as choisi aussi la philosophie, tu as fait des études en philosophie. J'ai envie de te demander, là tu y as en partie répondu, c'est-à-dire en quoi, comme médecin, psychiatre, tu avais besoin d'avoir un rapport au littéraire. Bon, tu aurais pu tout simplement aller voir un psychanalyste. Hein? Je veux dire, il y a autre chose qui se passe dans ce... Et dans la littérature, dans le vouloir écrire chez toi. Et c'est pas écrire n'importe quoi, c'est écrire de la poésie. Donc, je voudrais savoir un petit peu... parce que tu aurais pu faire seulement un essai pour ou contre le système médical, tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas ça, il y a autre chose qui s'est fait dans tes textes, j'ai envie de savoir ce que c'est, voilà.
Oui, en fait, c'est vraiment concret comme premier début de réponse, là, mais je ne sais pas vraiment écrire autrement que par la poésie, là, donc j'ai toujours été passionnée de poésie toute petite, donc c'est un peu ma façon spontanée d'écrire. Mais je dirais que je pense que particulièrement pour la question du soin, pour moi, la poésie, ça permet d'aller rejoindre plus, je dirais, une émotion qui pense ou une pensée de l'émotion, c'est-à-dire que ça permet de faire cette concordance-là entre deux domaines qui seraient plus clivés, donc soit le rationnel ou soit être complètement dans l'émotion. C'est un peu une sculpture, une mise en forme de l'inconscient pour moi. Et donc, c'est comme un peu naturel d'aller dans ce mode-là. Aussi, en fait, je pense à un poète que j'aime beaucoup, Antonio Gamoneda, qui disait, en fait, la poésie, c'est la façon dont je marche vers la mort. Donc, pour moi, c'est tout cet apprentissage de la vulnérabilité, des failles. Donc, c'est pas une écriture qui est logique, c'est une écriture qui, à la limite, parfois déconstruite, c'est une écriture de l'image. Donc, j'aime cette idée de pouvoir, justement, toucher la folie, mais sans, comme, traverser, puis sans être hospitalisée à mon hôpital. Donc, ça permet ce jeu-là, en fait. Puis, pour moi, ça me permet, je pense, mais encore très humblement, de prendre une posture plus du patient. C'est comme si, quand je suis poète, je suis comme plus patiente que psychiatre. Puis j'aime cette idée-là de pouvoir me permettre la folie, puis donc de toucher à ça sans devenir complètement folle. Ouais. Je dirais ça comme ça.
Est-ce qu'il y a une part aussi dans la poésie d'hermétisme ou de secret qui convient mieux à quelqu'un qui... a besoin aussi de garder cette part non révélée.
Oui, mais c'est intéressant en fait, parce que moi j'ai l'impression que la poésie, c'est comme on dévoile tout, mais de manière complètement cachée. Donc ouais. c'est un peu le paradoxe en fait, c'est comme un dévoilé caché ou Winnicott dirait un créé trouvé. Mais j'aime cette idée-là aussi de pouvoir effectivement me cacher derrière les images, mais en même temps tout est là pour qui sait bien lire. Puis je trouve que c'est un peu aussi, ça prend une lecture un peu de psy à quelque part quand on lit de la poésie, donc de pas être dans un mode de compréhension rationnelle, vous savez mieux que moi, là, mais donc de se laisser un peu porter. Puis c'est un peu ce qu'on fait avec le patient. Là. Si moi, je cherche juste mes 9 critères du trouble de personnalité limite, ben, je pense complètement à côté de l'affaire. T'sais. Mais ce qui est plate, c'est que je dois les avoir, ces 9 critères-là. Donc, je peux comme pas passer complètement à côté de cet aspect technique. Mais la littérature, pour moi, me permet de pas me cantonner à ça, parce que sinon, c'est plate. C'est plate pour le patient, c'est plate pour moi, puis c'est pas de la médecine.
C'est la question du langage, en fait. Tu es herméneute, tu es interprète.
C'est ça,
aussi.
Oui, c'est ça. J'essaie de lire le non-verbal, j'essaie de lire les non-dits. Puis la poésie, c'est ça pour moi. Ce qui est intéressant, c'est ce qui n'est pas écrit, dans le fond. Mm-hmm. C'est entre les lignes.
J'aurais une question, mais dans le même sens, sur la forme poétique, puis... En fait, ce qui arrive avec, si je fais le lien avec la littérature du sida, c'est que la littérature du sida, la critique l'a un peu étudiée, s'écrit comme un dossier médical. Mm-hmm. Donc, c'est très, très froid. Guibert, avant son sida, avait une écriture extrêmement, qui faisait beaucoup penser à Médicé aussi, qui avait beaucoup d'envolées très précieuses, mais aussi très mégalomaniaques, c'était quelque chose de très exalté sur le plan formel et stylistique. Puis, aussitôt qu'il est devenu malade et mourant, là, c'est devenu soudainement très, très froid. Et comme si, finalement, d'adopter un jargon scientifique, ça allait le sauver, finalement. Mais moi, c'est le rapport plus à aussi l'inventivité que la poésie permet. Parce qu'on est beaucoup, souvent dans la littérature contemporaine, d'inspiration médicale, donc quelque chose de très objectif, comme s'il fallait vraiment coller au réel pour dire les choses de façon... dépouiller le plus vrai possible. Alors que si on va au 19e siècle, moi, sur ma thèse, j'essaie d'ouvrir un peu le sida au 19e siècle, où là, à la fin du 19e siècle, principalement, on va avec Lille-Adam, par exemple, qui écrit bon, la future. Ça, c'est comme on est dans une science-fiction du scientifique complètement mégalo et complètement inventif, dans un rapport poétique très, très, très enlevant, très haletant. Fait que je me demandais s'il y avait. Tu avais un petit peu ça, parce que tu disais que tu écrivais de la poésie comme une passion, mais comme une psychiatre, est-ce que ça te permet une inventivité, justement, dans ton rapport de soignante? Plutôt que de...
Dévie
un peu.
Question
que je t'ai faite, là, t'es comme...
En fait, je dirais peut-être que c'est plus dans la posture que je verrais peut-être le sens de la réponse, en fait, parce que pour moi, ce qui est beau aussi dans les mots, c'est que le mot n'est pas la chose. T'sais. Un de mes collègues psychiatres psychanalyse souvent le mot « chien ne mord pas », tu sais, donc, c'est toujours une tentative, en fait, de rejoindre, mais il y a toujours cet échec-là perpétuel, c'est pour ça qu'on réécrit sans arrêt, en tout cas pour moi. Puis en médecine, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, nos critères, nos cases, tout ce qu'on essaie de mettre dans un côté scientifique, particulièrement en psychiatrie, on n'y arrive comme pas. Ça dépasse toujours le mot du patient, ça dépasse, il ne rentre pas dans ma case. Puis j'aime cette idée-là, puis pour moi, la poésie, c'est ça aussi. L'autre chose, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup un texte de Kang Guilhem, en fait, Puissance et limite de la rationalité médicale, puis qui dit qu'en fait, la médecine, pour atteindre son degré de technicité puis de science, a dû carrément comme faire abstraction du patient. Parce qu'on voulait s'intéresser à ses organes puis à sa physiologie. Puis c'est comme si, pour moi, la littérature puis le fait d'être dans un côté plus poétique ou dans Médicé plus inventif, tout ça, bien, c'est un peu de réhabiliter finalement le patient, tu sais, comme et il fait tant important dans la médecine. Puis c'est fou, je vous dis ça, ça a l'air comme... Mais je sais pas si vous avez vos expériences avec vos propres médecins. Des fois, on a l'impression que, je veux dire, on serait une chaise ou un foie ou un poumon, puis ça ferait l'affaire, tu sais.
Ou un pancréas,
c'est ça. Pancréas. Ça ferait l'affaire, tu sais. Puis je comprends, moi, les médecins, parce qu'ils ont comme pas le choix, des fois, de faire abstraction de vous, mais en même temps, vous voulez que le médecin ne fasse pas abstraction de vous. Puis pour moi, la littérature, c'est cette possibilité-là de réhabiliter le patient. Mais c'est un rappel constant. Puis comme je dis toujours, moi, j'en vois 15 dans une journée, tu sais, fait qu'à un moment donné, le patient, vous voyez juste un psychiatre dans la journée. Moi, j'en ai vu 15. Fait qu'il faut à chaque fois que je me le rappelle, tu sais. Puis c'est comme si mes livres, c'est comme une façon pour moi de me le rappeler, tu sais. Il y en a qui ont d'autres façons, ils méditent, je sais pas.
peut-être je rebondis rapidement là-dessus, c'est quand tu dis aussi que le médecin n'a pas le choix, puis en effet, justement, moi aussi, quand je vois des patients, j'ai des normes de l'ordre professionnel à faire, sinon, bon, je vais être radié, justement, bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que comment, avec l'interdisciplinarité dont on parlait tantôt, des fois, est-ce que toi, tu n'as pas le choix de soigner ton patient d'une façon parce que tu es la psychiatre? Où est-ce que les autres soignants, parce que le soin, comme on a dit, c'est pas juste médecin-patient, il y a la famille aussi, bon, mm-hmm. qui est là, il y a des gens qui n'ont pas cette obligation légale ou éthique. Mm-hmm. Est-ce que des fois, ça t'arrive de comme donner le rôle à quelqu'un d'autre que toi, tu peux pas faire en tant que psychiatre, finalement? Mm-hmm. Je sais pas comment ça... Tu négocies peut-être les personnes qui gravitent autour du patient?
Bien sûr que moi, je suis très famille. Là, je rencontre toujours les familles, mais je pense que je vois vraiment ça comme un terrain de jeu avec des limites, mais en même temps, pour moi, c'est les limites qui permettent le jeu. C'est-à-dire que ce cadre-là fait qu'on peut jouer, parce que si je suis toujours à risque à chaque fois de coucher avec mon patient, c'est vraiment pas bon. Fait que ces limites-là créent un cadre sécuritaire, mais après ça, il y a beaucoup d'espace de créativité. Puis pour moi, c'est vraiment une co-construction, là, c'est un jeu. Donc moi, je dis toujours, je ris beaucoup en psychiatrie, ça rend ça bizarre, mais je fais énormément de blagues, les patients me suivent là-dedans. Donc c'est très co-créatif pour moi. Là. Donc, c'est pas nécessairement en intégrant d'autres gens, mais c'est moi-même en me permettant d'être créativité. Puis en fait, j'ai passé toute ma vie de mes études en médecine à vouloir aller en littérature. Puis je suis contente finalement d'avoir persévéré. Mais c'était un peu ça, c'est que j'avais l'impression de faire de la médecine comme une machine, parce que personne m'avait appris que je pouvais être créative, puis bref, que je pouvais être poète en médecine, puis que c'était même positif.
Ben oui,
puis on parlait de la question de la formation, vous questionniez aussi, est-ce que c'est de plus en plus présent, les humanités médicales? Ici, à l'Université de Montréal, nous, dans le département de psychiatrie, on a créé un cours, on fait des initiatives, mais effectivement, c'est toujours un peu en silo, parce que même si nous, on s'y intéresse, on n'invite pas des littéraires. On le fait par nous-mêmes, parce qu'on est tous des gens très cultivés. Mais vous voyez, c'est comme si ça ne transcende pas les silos malgré tout. Puis l'autre aspect que je verrais par rapport à la question de la formation, c'est qu'on voit beaucoup ça dans une perspective de moyens, c'est-à-dire une perspective utilitariste, c'est-à-dire qu'on va utiliser la littérature pour mieux former les étudiants en médecine parce qu'ils sont vraiment pas empathiques. Mais en même temps, on s'aperçoit, si on regarde les données plus evidence-based, j'aime vraiment pas cette littérature-là, mais c'est pas si clair que ça. Pour tant d'études qui vont dire que oui, ben d'autres études vont dire que pas vraiment. Mais c'est comme si on a cette, je dirais, une part d'illusion où on veut y croire que ça va vraiment faire cet effet-là. Mais moi, j'aime le penser autrement, c'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est pas une fin en soi d'avoir certaines connaissances, puis dans le fond, que ça fait partie du corpus de connaissances de la même façon que de connaître mes neurotransmetteurs. T'sais, moi, dans ma formation en médecine, on m'a jamais donné un cours sur c'est quoi la maladie mentale. Il y a une littérature monstre en philosophie de la psychiatrie sur le sujet. Puis dans le fond, je suis psychiatre, mais je ne pourrais même pas te donner une définition de la maladie mentale, tu sais, autre que celle qu'il y a dans le DSM, qui est vraiment boboche. DSM, c'est le DSM-5, là, manuel des troubles mentaux. Donc, c'est des connaissances aussi importantes que de connaître mes neurotransmetteurs, tu sais, mais ce n'est pas enseigné. Puis on peut penser la même chose de la littérature. Pour moi, quand Annie Ernaux écrit dans Le vrai lieu, écrire, c'est viser à la connaissance, non pas à la connaissance des sciences sociales ou de la psychanalyse ou de la médecine. Mais la connaissance qui passe par la subjectivité, par l'émotion, tu sais. Apprendre le trouble de personnalité limite, vous pouvez connaître les 9 critères, mais vous n'avez jamais aussi bien connaître le trouble de personnalité limite que si vous lisez Borderline de Marie-Cécile Labrèche ou des œuvres de Nelly Arcand. Donc, à quelque part, pour moi, il y a un savoir qui existe dans la discipline littéraire, mais nous, on le voit toujours de manière utilitaire. C'est comme on va vous utiliser pour nous rendre un peu mieux, tu sais. En tout cas, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on veut construire
oui,
ça.
Tout à fait.
Comment on va co-construire ça, en fait, c'est un peu le défi. Puis je pense qu'il y a toute cette réflexion-là. Est-ce qu'on veut juste donner 3 heures de cours, puis on se dit, OK, coché, puis les étudiants en médecine vont être plus sympathiques quand je vais les voir, ou il y a quelque chose d'un peu plus complexe?
tu l'as mentionné tout à l'heure. Ça m'intéresse vraiment la question des mauvais et des bons sentiments, parce que dans cette utilisation que la médecine peut faire de la littérature ou que la littérature peut faire de la médecine, on a toujours l'impression qu'on va faire le bien ensemble, on va avancer ensemble. Puis je t'ai envoyé une anecdote que je te l'avais déjà racontée d'ailleurs, parce que je suis allée manger avec des médecins, c'était payé par une compagnie pharmaceutique.
Moi, je n'irai jamais.
Moi, je ne savais pas que ça allait être payé. Moi, je ne suis pas un médecin, mais j'ai vu après qui a payé. Donc, on était là et en train de. Et puis, on me demandait justement de leur expliquer ce que c'était. Il fallait que je fasse pendant le repas, expliquer la littérature du sida à des médecins très vite pour qu'ils sachent ce qu'est la littérature du sida. Donc, j'ai fait ça. Et puis, à un moment donné, je leur raconte que Guibert, dans un de ses textes, déteste les médecins, il en dit pique-pande, et puis là, il y a un médecin assez célèbre qui dit « c'est épouvantable, on n'aurait pas dû le laisser écrire ça, la littérature, elle est toujours en train de critiquer les médecins, c'est épouvantable, blablabla. » Et là, je me rappelle lui avoir dit « mais vous aimeriez pas que je vous aide à écrire un livre comme médecin contre vos patients ?» Et là, il a dit « ah oui, j'ai dit, c'est ça, la littérature. La littérature, c'est comme à un moment donné, vous le prenez pour de la réalité, mais peut-être vous allez pouvoir rire, vous allez pouvoir commencer à écrire autre chose, vous allez pouvoir aussi, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas tous purs. Alors j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas pris, et puis même je vais te le dire d'une façon un peu soigner, aimer, c'est très bon sentiment aussi, hein, le titre de ton livre, est-ce qu'on n'est pas tous pris les uns et les autres pour pouvoir exister ensemble, les littéraires et les médecins? Bon, bien sûr, aller vers le bien, on ne veut pas aller vers le mal, mais est-ce qu'on n'est pas un peu pris avec cette idée nous allons tous vers des meilleurs sentiments, ce qui est un vrai problème pour la littérature, mm-hmm. ce qui est un vrai problème pour la littérature, et peut-être moins pour la médecine, mm-hmm. même si, parce que je pense que la médecine ne peut pas quitter ce volonté de bien.
Oui, mais ça détruirait un peu la maison.
Oui, voilà.
Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Pour moi, c'est sûr que, bon, la réponse facile, c'est d'expliquer effectivement mon devoir éthique puis toutes les obligations professionnelles. Puis effectivement, écrire « Je déteste Madame X », ça serait pas comme élégant. Je pense qu'il y a cette partie-là, effectivement. Là où peut-être, je dirais, en tout cas, dans Soigner Aimé, pour moi, le projet était surtout de critiquer peut-être mes collègues, mais donc critiquer plus la façon dont la médecine se fait. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas de personne à viser nécessairement, que c'est vraiment plus un système. Fait que c'est un peu plus comme ça que je le verrais. L'autre chose, je pense que notre rôle, puis encore une fois, c'est comme indissociable de notre rôle comme médecin, mais je dirais même comme psychiatre. Winnicott disait dans les thérapies, finalement, notre rôle, c'est de survivre à la destruction. Puis dans le fond, les fois où les médecins sont fâchés contre leurs patients, en général, c'est quand le patient est fâché contre eux, puis il n'est pas satisfait de ce que le médecin a fait, puis il les critique, tu sais. Mais moi, quelque part, je considère que les patients ont le droit d'être insatisfaits, puis même de me nommer, puis même de m'envoyer pète, tu sais. Mais moi, j'ai le droit de les expulser de mon bureau. Mais tu sais, c'est comme si pour moi, tout ce qui est dans le domaine médical, bien, c'est pas ma mère, tu sais. Même quand j'ai de la colère, pour moi, c'est pas vraiment lié au patient. Fait que je pourrais pas, parce que oui, il faut pas être dans les bons sentiments, mais en même temps, je voudrais pas être non plus dans les faux sentiments.
Non, mais c'est pas contre les patients, c'est juste justement exprimer. Pas, c'était juste parce que lui, je lui répondais
oui,
parce
ça.
Qu'il était contre ses patients,
ouais,
il avait pas la soirée à en dire du mal. Mais c'est juste
parler plus de. C'est ça. C'est plus moi dans mes autres livres, je pense, quand je parle plus de ma famille, mais encore une fois, de manière plus cachée peut-être. Là, mais ça transparaît peut-être plus des émotions. Disons, pas très bon sentiment. Là. Mais c'est vrai que la littérature de la médecine est un peu mal prise. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours du versant du patient où l'on va vraiment être plus dans. Je pense à notamment Catherine Raymond, qui est aussi en fait résidente en psychiatrie, qui a écrit Matricide puis qui rentre dedans, là, pas à peu près, mais elle est dans sa position de patient,
c'est
elle
n'est
pas dans sa position de médecin. Puis dans le fond, moi, dans Soigner Aimé, au début, il n'y avait pas de texte où moi-même j'étais patiente. Je l'ai comme rajouté parce que je trouvais que ça faisait comme pas sens de faire un livre sur le soin où moi-même je me mets pas en jeu. T'sais. Fait que c'est un peu de cette façon-là, je pense que le médecin arrive à détourner ce problème des beaux sentiments lui-même en se mettant en position de patient. Puis souvent, dans les écrits que tu citais, bien, lui-même était en position de patient. Dans le fond, c'est dans ces moments-là où on est dans la vulnérabilité puis qu'on sort effectivement du bon sentiment. Moi, je voulais aussi faire un peu un livre de réflexion pour les soignants en général sur qu'est-ce que devrait être la médecine, puis on reste effectivement dans quelque chose de plus idéal à quelque part. C'est ça. Mais il y a comme un malaise en même temps. Quand tu es médecin et tu te mets dans la posture où tu révèles toi-même tes difficultés, là encore, ça pose toutes les questions. Est-ce que les patients vont me lire? Comment ils vont prendre ça? Donc, il y a toujours cette... c'est un peu difficile, cette coexistence-là, je pense, de dévoilement, en tout cas pour moi, comme médecin. Il me semble que j'avais quelque chose d'autre à dire par rapport à ça, mais... ça va me revenir.
j'ai envie d'enchaîner sur la notion d'échec. Parce que qu'est-ce qu'un échec en médecine et qu'est-ce qu'un échec en littérature? Hein, qu'est-ce quand tu écris, qu'est-ce que c'est échouer? Qu'est-ce que c'est un succès? Je ne parle pas du succès. Tu sais, en médecine, il y a sûrement des indicateurs de réussite ou de non-ratage. Mais j'ai envie de savoir comment tu vois ça par rapport à ton écriture et par rapport à ta pratique.
Oui. Par rapport à mon écriture, j'ai l'impression qu'un échec, en tout cas, c'est vraiment personnel, mais pour moi, ça serait un livre qui serait à côté de moi, dans le fond, un peu comme Sadène Garneau, dont je marche à côté. Donc, ce serait un livre qui ne correspondrait pas vraiment à ce que moi, j'ai senti ou j'ai vécu. Puis donc, un livre qui serait un petit peu dans le faux-semblant. Je pense que ce serait ça. Puis, dans le fond, mes livres, souvent, je reste dans la poésie, mais la forme varie aussi parce qu'il y a quand même cette volonté aussi de varier, comme dans Emprunter aux oiseaux, c'est une forme un peu plus rétrécie, qui va plus avec le sujet. Dans Médicis, une forme plus de prose poétique. Donc, c'est peut-être aussi de poète à chaque fois dans la remise en question au niveau formel de comment je vais recréer un petit peu la forme. Donc, de me contenter de m'asseoir sur des formes un peu que je connais, puis de répéter toujours le même, ça serait peut-être un peu... Mais en même temps, je vois mal un échec en littérature, là, personnellement. C'est comme un concept que je vois moins qu'en médecine. En médecine, ça m'apparaît.
Alors, qu'est-ce que c'est en médecine?
Ben, c'est sûr que si je prescris tout croche une dose de médicament puis je tue mon patient, c'est vraiment pas bien. Mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'en médecine, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux d'orgueil, de narcissisme. Ça fait comme un peu partie de la profession. On est comme sélectionné. Puis moi, je me souviens, à mon cours de médecine, ça commençait par dire « Vous êtes la crème de la crème ». Puis il disait vraiment ça, tu sais. Donc, il y a un peu en même temps, c'est peut-être pour moi, la poésie, c'est un peu ma façon aussi de déconstruire ça, tu sais, de montrer mes failles. C'était très important dans Soigner Amy pour moi de montrer justement que, tu sais, ça m'arrive de pleurer, comme, puis ça m'arrive d'être triste. On dirait que les patients, même quand je leur dis ça, sont surpris, là, comme si... nous autres, on est comme au-dessus de tout. Puis,
Mais le mot humilité que tu emploies...
C'est ça. Pour moi, c'est très important. Puis dans Soigner Aimer aussi, les gens trouvent ça très... Dans Médicis, pardon, les gens trouvent ça noir, trouvent ça très déprimé, tout ça. Donc, ça colle pas avec l'image du médecin en santé. Puis donc, pour moi, c'est important de déconstruire ça. Puis je pense que c'est peut-être difficile. Les pires patients, c'est les médecins, on le sait. Là. C'est comme...
quelque chose à dire aussi là-dessus. Avec mon expérience, justement, j'avais étudié en santé, en physio, tout ça, où ta note est toujours proportionnelle à ton étude, dans la mesure où tu apprends par cœur. Tu es vraiment comme littéralement une machine, finalement, à apprendre des codex par cœur, puis des algorithmes par cœur. Puis, tu sais, justement, avoir 100% en littérature, c'est la perfection en littérature. Ça existe comme pas. On est vraiment dans... Il n'y a pas, justement, on n'a pas 100% dans une disserte, là, ou encore moins sûrement dans un recueil de poésie. Donc, c'est tout le rapport à... C'est intéressant, justement, parce que l'échec, c'est pas la même chose parce que les deux savoirs sont quand même un peu différents. Le rapport à la connaissance est différent parce que dans l'un, finalement, on construit quelque chose, on construit une maîtrise technique. Et finalement, un bon littéraire, puis moi, dans mes premiers cours de littérature, même si j'étais bon élève en sciences, je ramais, là, mais de façon... j'étais très angoissé parce que j'arrivais à... Il n'y avait pas de réponse. Pas parce que je mettais 10 heures un samedi que là, j'allais avoir un A+. Fait qu'il y a beaucoup ça. Le fait qu'il n'y a pas de solution, finalement, en bout de ligne, en littérature. Oui, on a des théories, on fait un savoir qui est concret, qui est utilisable peut-être ou pas, puis tant mieux. Mais le rapport à l'échec, je pense, est différent parce que finalement, la littérature, puis je disais tantôt avec Sixou que c'est une zone de turbulence, puis ça doit rester une zone où finalement, on est dans une ambivalence du sens et donc dans une ambivalence aussi de l'échec parce que en médecine, le patient meurt, est-ce que c'est un échec ou pas? Parce que là, maintenant, avec toute la fin de vie, toute la réflexion qu'on a sur la fin de vie, la non-guérison, finalement, c'est pas toujours un échec, même en médecine. Donc, moi, il y a ça que je pense la littérature a à nous apprendre, c'est que on pense qu'on réussit et on pense qu'on construit quelque chose de solide, mais finalement, c'est solide jusqu'à temps que dans 100 ans, on regarde ce qu'on faisait il y a 100 ans. C'est un peu ça ce que je disais aussi avec notre rapport à l'histoire de la médecine. La littérature, on y réfléchit beaucoup, beaucoup dans une perspective historique, dans les études littéraires, alors qu'en médecine, on donne... Ça, c'est en 2019, comment t'es un bon psychiatre, puis l'étudiant fait... Puis évidemment, il y a un talent bon, pour apprendre les choses, mais c'est là que finalement, après ça, quand tu les déstabilises, si, mettons, à l'hôpital, je sais pas, le patient, il décide de coder, puis c'était pas prévu, là, oh boy, tu sais, il y a... Encore une fois, on est dans le savoir-être. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup dans l'ambivalence. La littérature, sans être complètement abstraite, c'est tout à fait rigoureux, mais on a un rapport à l'ambivalence et à la déconstruction de ce que c'est qu'une réussite, de ce que c'est un échec. Je pense que la médecine a quelque chose d'important à apprendre du littéraire pour ça.
Oui. Puis peut-être, je pense que c'est aussi toute la... Parce que, tu sais, moi, je suis en médecine, mais je suis psychiatre. Oui, puis c'est problématique, ça. La psychiatrie, tu sais, parce qu'on n'a pas... C'est très ambivalent. Justement, c'est une zone de turbulence parce qu'on s'aperçoit que toute notre bagage conceptuel, comment on classe les maladies, bien, finalement, ça colle pas vraiment. Plus on avance dans les avancées scientifiques, ça colle pas vraiment avec la réalité, entre guillemets, là. C'est comme un peu en mycologie. Moi, j'aime beaucoup les champignons, puis à l'époque, ils les classaient selon leur morphologie, mais là, avec les études génétiques, ils s'aperçoivent que finalement, leur classification tient pas du tout la route, puis ils ont tout refait les classifications. Mais nous, c'est comme si on réalise qu'on est complètement à côté, on n'a pas d'outils diagnostiques. Fait que c'est vraiment une zone d'ambivalence. Puis c'est là où je pense que la psychiatrie est encore plus proche de la littérature, parce qu'il n'y a pas cette possibilité mm-hmm. d'une réponse satisfaisante. Puis un peu, c'est la blague, si vous voyez trois psychiatres de leurs trois avis diagnostiques différents, puis c'est plate, mais c'est un peu vrai. T'sais. Donc, il y a un peu ce problème de la psychiatrie. Puis peut-être, je reviendrai à la question des bons sentiments. Moi, j'ai une mentor en psychiatrie qui est assez flyée, là, puis elle, il va assez raide, mais elle a dit tout le temps, tu sais, aucun médecin qui a empêché quelqu'un de mourir, tu sais. Puis quand j'ai eu un suicide, tu sais, puis c'est toujours un peu un échec pour un psychiatre d'avoir un suicide, c'est comme, oh, tu sais. Mais elle en a commis trois dans la même semaine, là, tu sais. Puis là, elle me disait, c'est ça, elle me dit ça, tu sais. Puis là, elle connaissait cette patiente-là, tu sais. Puis là, je vais la voir, je dis, ouais, tu sais, madame. X s'est suicidée, tu sais. Puis là, elle me regarde, elle dit, ah, c'est bien. Je dis, mais voyez, tu sais, ça, c'est le genre de choses que j'aimerais bien écrire, tu sais. Je vais le faire éventuellement, mais c'est qu'elle, pour elle, c'est un peu ça, tu sais. À un moment donné, il y a des cas palliatifs en psychiatrie aussi, tu sais. Mais ça se dit tellement pas publiquement, tu sais, aller dire ça dans les campagnes. Là, je vous le dis à vous, tu sais, mais aller dire ça dans les campagnes, tu sais, lutte contre le suicide, machin. Mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'à un moment donné, nous aussi, on a nos cas de phase terminale, tu sais. Qu'on n'est pas Dieu, puis qu'on sera pas Dieu, puis que tout le monde va mourir un jour, tu sais. Donc, ça m'a vraiment aidée, moi, quand elle m'a dit ça, tu sais, parce que moi, j'étais encore jeune puis naïve, puis je voulais sauver le monde, tu sais, puis là, ça m'a un peu rentré dedans, mais maintenant, j'ai souvent cette réflexion-là, comme, ah, il s'est suicidé, ben, c'est bien, tu sais, mais c'est ça, tu sais, on n'a comme pas le choix, tu sais, mais en même temps, c'est comment ne pas être non plus dans le cynisme ou dans juste être dans la position défensive, que je veux pas que ça me fasse de quoi, puis en tout cas, tout cet équilibre.
Il y a aussi, il n'y a pas de stabilisation. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce que tantôt, tu disais qu'il n'y a pas de lien sans séparation. Justement, soigner-aimé, mais bon, je ne veux pas juste faire du schématisme, mais il n'y a pas d'amour sans haine aussi. Mm-hmm. Puis c'est l'idée aussi que ça bouge dans le temps. Ça mm-hmm. bouge dans le temps, ça bouge dans l'espace, puis d'une personne à l'autre. Et de dire, mettons, justement, comme on disait, tu disais, Catherine, je ne suis pas pure, mais on n'est pas... Justement, on est peut-être un peu comme Guibert, barbare et délicat, dans le sens où la pureté n'est pas toute dans le mal.
Non,
toute...
c'est
donc, c'est vraiment dans l'oscillation, finalement, constante qui doit rester dans le mouvement. Je pense que la littérature permet aussi de dire qu'on n'est pas dans quelque chose de fixé dans le temps, dans l'histoire, là.
Oui, oui, mais c'est très intéressant parce qu'il y aurait vraiment une typologie du temps selon les spécialités, là, tu sais, parce que le temps de l'urgentologue n'est pas du tout le temps du psychiatre. En fait, nous, la boutade en psychiatrie, c'est de toujours dire il n'y a pas d'urgence, tu sais, parce que nous, si on fonctionne sur un mode d'urgence, bien, on se fait complètement avoir, tu sais, parce que les gens, ils crient à l'urgence, puis c'est l'urgence, je vais me tuer, etc. Mais si...
Sujet par la fenêtre.
Ben c'est ça, mais nous, il ne faut pas qu'on rentre là-dedans, parce que sinon, il va vraiment se tuer. Donc, nous, il faut rester comme, il n'y a pas d'urgence, tu sais, parce que c'est un autre rapport à la temporalité. Puis c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que la psychiatrie, s'il y a un domaine où je pense que la littérature est plus connexe en médecine, c'est pour moi la psychiatrie, là, dans ce rapport. Soigner aimé est constitué de chroniques que j'ai faites dans des journaux de psychiatres, en fait. Donc, j'avais une chronique qui s'intitulait Psychiatre, où, dans le fond, je faisais des récits comme ça. Mais je le réécrirais pas, puis j'ai comme pris une tangente où je me verrais pas refaire ce type de récit-là, parce que j'ai l'impression que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème en médecine, je pense que ça doit être adressé. Puis je trouvais important aussi de montrer, parce que la psychiatrie, c'est un peu les portes closes. C'est un peu encore l'image un peu de l'asile, puis c'est un monde qu'on connaît pas. Puis comme je dis tout le temps, moi je pars le soir puis j'ai les clés, tu sais, mais ça c'est bien précieux. Dans un hôpital psychiatrique, ce que tu veux, c'est les clés, tu sais. Ça distingue le patient du soignant. Donc c'est, pour moi, c'était un peu aussi d'ouvrir une fenêtre sur cet univers-là qui est un peu inconnu, qui est encore très stigmatisé. Mais en même temps, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire. J'aurais pas tendance à le refaire parce que je considère que ça m'appartient comme plus ou moins à quelque part, tu sais. Je l'ai fait parce que je pense que c'était important que ce soit connu, mais j'aurais pas tendance à reprendre ça. J'ai plus tendance à cette époque-ci, puis c'est un peu ça dans mes... En fait, oui. Tous mes autres livres, c'est vraiment ma vie personnelle ou d'avis de proches que je sais qu'ils sont d'accord que j'aborde ça, tu sais. Là, je suis plus à l'écriture, là, je suis une nouvelle mère, fait que là, je suis vraiment dans l'écriture de la maternité, mais vraiment dans ma perspective. Donc, c'est comme si je... C'est ça. Fait que c'est deux façons de le voir. On peut le voir comme une façon de mettre ça à niveau, mais on peut voir ça aussi comme une façon de maintenir un peu sa relation de pouvoir. Mon fantasme personnel, ce serait... J'hésite un peu, mais des fois, j'ai le fantasme de faire un groupe à la clinique où je travaille, d'écriture. On fait un groupe d'atelier d'écriture, puis que les gens, dans le fond, écrivent, parce qu'ils écrivent déjà, puis qu'on constitue ça, puis qu'ils fassent leur livre à eux. T'sais, ça serait plus, pour moi, là où je suis rendue... que moi j'ai comme fait, t'sais. Puis c'est pour ça que c'est important dans ce livre-là de vraiment me mettre en jeu comme soignante, de parler moi de mes émotions, t'sais, que je pleure quand il se passe telle affaire, t'sais, de pas juste montrer l'autre côté de la médaille, là. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant quelqu'un qui a pas parlé pendant 15 ans, là, mais c'était important de montrer que moi ça me rend vraiment dingue, puis ça me fait capoter, t'sais. Fallait que je le mette aussi, t'sais. C'était plus comme ça moi que je voyais la possibilité de rééquilibrer, parce que juste parler d'histoire du patient, je pense que je serais passé à côté, là.
Quelque chose à dire aussi par rapport à ma pratique clinique, justement, c'est que le nivellement de la relation, c'est pas juste justement un rapport de je te dis de faire quelque chose et je t'es actif-passif, par exemple. Tu parlais beaucoup, Vanessa, de jeu, puis moi, je vois beaucoup la relation de soins comme justement une scène finalement où il y a des rôles, puis il y a une histoire qui se fait. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain être ensemble qui est là dans la relation de soins, même si on est complètement différent. Ici, il y a une personne qui est en situation qui a besoin d'aide et le soignant qui a un rôle pour la sauver ou bon, la guérir ou l'aider, du moins. Et dans ce jeu-là, il y a tout le temps plein de choses vraiment intéressantes qui dépassent. Tu sais, mettons, moi, en plus, je suis physio, donc je suis dans le corps, donc carrément le corps, tu sais, biomécanique, tout ça, mais en neurologie. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que la neuro... au niveau du cerveau, évidemment, c'est le siège de toutes tes facultés, donc tes facultés cognitives, tes facultés langagières aussi. Et chaque patient est complètement différent. On ressort finalement des lignes, bon, c'est l'AVC dans telle région du cerveau, le tableau a l'air de ça, mais c'est tout le temps quelque chose d'unique finalement que je vois avec le patient. Donc, Vanessa parlait beaucoup d'écoute, mais même moi, si je suis physio, donc comme le matériau du corps du patient, tu sais, qui marche et tout, je suis obligé de tout le temps avoir un peu un nouveau livre devant moi. Si je dis AVC gauche, c'est telle affaire, clac, clac, clac. Puis, souvent, les radiographies du cerveau ne sont pas compatibles à 100% avec les symptômes. Donc, des fois, tu as des trucs, mais il ne devrait pas avoir une aphasie parce que l'AVC n'est pas dans cette région-là. Donc, tu as besoin finalement d'avoir cette unité-là pour te mettre à niveau de la réalité de ton patient. Donc, ce n'est pas juste un truc autoritaire. Puis, les autres trucs que moi, j'adore, là, j'ai parlé de langage, puis c'est triste, mais en même temps, moi, il y a des perles, finalement, des fois, qui ressortent de ma relation avec mes patients. Un jour, j'avais une patiente qui m'avait dit ça. Elle parlait de sa relation avec le médecin, tu sais, puis elle était aphasique, et elle dit, puis je m'en suis rappelé, je l'ai noté, puis je trouvais tellement que c'était une expression géniale, elle dit, « J'ai confiance à 100% à mon médecin, je me méfie à 100% de lui. » Au lieu de dire je me fie sur lui, mais son aphasie a créé un lapsus, je me méfie à 100% de lui. Mais là, j'étais comme, c'est vraiment intéressant, tu sais, dans le sens où quelque chose qui. L'aphasie, c'est quelque chose d'absolument terrible, mais des fois, justement, dans cette espèce d'inconscient langagier, du jeu de relations de soins, il y a des genres de perles sémantiques qui ressortent. Là. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans une pièce de théâtre. Puis moi, dans mon écriture créatrice, j'aime beaucoup ça, jouer sur le langage, parce que tu peux faire ressortir du sens sur une situation qui est très, très scientifique ou très hiérarchisée, tu sais. Mais le langage qui est déconstruit, ben là, finalement, il y a un autre sens qui crée le passage. Des fois, les patients, ben comment ils se présentent? Mon copain, il aime beaucoup ça quand je lui raconte des histoires. Il est tout le temps là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Moi, je suis comme, je veux pas en parler, là. Je veux décrocher. Mais il y a quelque chose de... Comme lire un livre, finalement. Moi, c'est ça que je dis à mes collègues. C'est qu'on fait un travail littéraire parce qu'on lit des corps comme on lit un livre. Et c'est à nous, après ça, à négocier la suite de l'écriture dans la relation de soins, finalement.
Je pense que c'est tout pour finir. C'est tout un peu le questionnement, parce qu'en même temps, c'est des choses qui font partie de la réalité, qui sont importantes, je pense, à nommer. Puis en même temps, il y a tout ce questionnement comme soignant. Est-ce que c'est vraiment à nous de le faire ou est-ce que ce serait pas mieux que ce soit? T'sais, mais nous, on a un regard de soignant sur la chose. Fait que on amène une autre perspective. En tout cas, c'est...
Ouais, Nessa, on va demander qu'elle lise peut-être un petit texte avant de partir. Texte, et puis,
Tout petit, parce que... Terre sciée en deux, cette île est la réserve autochtone Ouachat, séparée par un mur de la honte à la hauteur de celui d'Israël. Tu sais, docteur, il y a nous, il y a eux. En cette guerre de pronoms, je m'obstine à dire « je », à me sentir du côté des humiliés par humilité et chair de métis. Il ne veut pas de médecin blanc, alors j'avance. Il me demande s'il peut fumer, ça dépend si tu veux te tuer. Il répond non, il a raison, la vie est belle comme les caribous. Peux-tu m'apprendre à parler? Comment dis-tu bonjour, au revoir? Comment dis-tu médecin? Il me dévisage ébahi. Je n'ai pas l'accent. On recommence à soigner les plaies de 4 siècles, tandis que pétarade les solutés. Je pars en voyage avec plus seul que moi et on échange des crevasses. Je reviens de beaucoup. Vivre reste le dernier geste. On se reconnaît le droit d'échouer. Comme les baies, on devient impuissant. On n'arrête pas les eaux de couler, on l'accepte. On recommence le trajet, cette île, le logement, l'hôpital. On réécrit le même poème, le même récit traverse hiver, glace, giboulée, congère. On ne sauve ni sa mère, ni son père, ni son frère, ni tel patient, ni les glaciers. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un meurt ici. On ne s'habitue pas au suicide. À 29 ans, on a tout vu, on a regardé la folie dans les yeux, on a mémorisé des miroirs, on a mangé les arêtes obligatoires, on n'a pas régurgité. La question ralentit, on repose en chemin, viendra cette clémence, marcher dans ses pas sans les détruire. On mange des groseilles, on boit du thé du Labrador, un goéland nous apprend tout, les épinettes réparent nos racines.